Dans un corps vide entrer mon âme, tout à coup être une autre femme, et que Juliette nous rédine en l'une ou l'autre s'enracine, et lire parmi les éminentes celles qui me feraient frissonnante, parmi toutes celles qui surent s'ébattre, qui surent aimer, qui surent se battre, mes sœurs innées, mes philippines, mes savantes et mes bécassines, Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines, Clara Zetkin, Anaïs Nin, ou Garbeau dans la reine Christine, sur le céleste.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, je m'appelle Manon, vous écoutez la première émission de Clittérature sur Radio Campus. Le thème de cette émission, la littérature féminine, nous incite à réfléchir du côté des femmes. Clittérature est née d'un constat simple, les autrices sont peu voire pas lues dans le cursus scolaire, peu voire pas étudiées à l'université et dans les grandes écoles, et peu voire pas analysées dans la production éditoriale ancienne et actuelle. Beaucoup de rien en fait, qui reflète la mise à l'écart d'une part considérable de la production littéraire et culturelle. Il aura en effet fallu attendre 2018 pour qu'un texte écrit par une autrice soit donné comme sujet à l'épreuve du baccalauréat. 2018 en France, cocorico. Si on se posait les questions suivantes, suis-je capable de citer 5 auteurs de fiction et 5 autrices, 5 poètes et 5 poétesses, 5 auteurs de BD et 5 autrices de BD? Vous voyez où je veux en venir. Honnêtement, il n'y a pas si longtemps, j'étais bien incapable de répondre aux questions portant sur les femmes. La nécessité de lire autant des femmes que des hommes de littérature ne devrait même plus être à défendre. Nous sommes privés de tout héritage symbolique à force d'être confrontés à une littérature monosexuée, celui du sujet masculin. Du coup, dans Clittérature, j'aimerais vous faire découvrir des autrices en lisant des extraits, mais aussi des artistes en lien avec l'œuvre choisie. Pourquoi Clittérature? Car je me suis rendu compte que la littérature féminine pouvait être comparée au clitoris. Cela fait peu de temps qu'on en parle, peu de temps qu'on les étudie, ils font tous les deux peur, dépendent essentiellement des mains et des langues, joignant l'utile à l'agréable, et surtout, on ne voit qu'une infime partie de ce qui existe vraiment. Pour ce premier numéro de Clittérature, je me suis dit qu'il ne serait peut-être pas inutile, lorsque l'on aborde un tel sujet, de revenir à la lecture fondamentale d'un classique en la matière. Aujourd'hui, je vous amène dans un univers sonore, littéraire et musical, celui de Virginia Woolf et d'une chambre à soi.
Words, English words, are full of echoes, memories, associations. They've been out and about on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries. And that is one of the chief difficulties in writing in today. They're stored with other meanings, with other memories, and they have contracted so many famous marriages in the past. The
split. Vous venez d'écouter le seul enregistrement de la voix de Virginia Woolf. L'extrait vient d'un discours appelé « Craftsmanship » et fut enregistré à la BBC en avril 1937 comme partie d'une série appelée « Words Fail Me », « Les mots me manquent ». Elle dit « Les mots anglais sont habités d'échos, de souvenirs, d'associations naturellement. Ils se sont promenés sur les lèvres des gens, dans leurs maisons, dans les rues, dans les champs, pendant tant de siècles. » C'est sa première leçon sur l'écriture. Écrire, c'est jouer avec les mots, avec leur essence, leur fonctionnement, et surtout ne pas s'en priver. Écrire donc comme une injonction vitale, une audace, un risque à l'image de sa production littéraire foisonnante. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Virginia Woolf, voici un petit rappel des faits. Née à Londres en 1882 dans une famille nombreuse et fortunée, Virginia est l'égérie du groupe de Bloomsbury, figure importante du modernisme artistique et littéraire. Elle épouse Leonard Woolf avec lequel elle fonde la maison d'édition Hogarth Press, qui lui permet de publier ses livres, mais aussi ceux de très grands auteurs comme T.S. Eliot, Freud et bien d'autres. En 26 ans d'écriture révolutionnaire, celle de l'idée de stream of consciousness, ce flux de mots censé représenter l'activité cérébrale des personnages, Virginia Woolf publie des romans, des nouvelles, des pensées, mais aussi des essais. Bisexuelle, elle explore des thématiques lesbiennes et féministes, mettant en lumière un constat terriblement actuel sur la place des femmes dans la littérature et de façon plus générale dans notre société. Victime de dépression chronique, elle se suicide par noyade en 1941. Après sa mort, son époux édite son journal, qui met en avant la pensée et la personnalité d'une femme devenue icône du féminisme anglo-saxon. Je dis icône du féminisme car l'écrivaine a plaidé inlassablement pour l'émancipation des femmes dans l'écriture. Son essai, Une chambre à soi, tente d'exprimer les raisons objectives de l'absence de femmes dans la scène littéraire. Ces raisons sont les suivantes, d'après elle, absence de liberté matérielle et manque d'éducation culturelle. Pourquoi les hommes boivent-ils du vin et les femmes de l'eau? Pourquoi un sexe est-il si prospère et l'autre si pauvre? Quel est l'effet de la pauvreté sur le roman? Quelles sont les conditions nécessaires à la création des œuvres d'art? En soi, les questions que pose Virginia Woolf dans cet essai, pourquoi si peu de femmes écrivains? Marie Darieussecq, autrice française qui a traduit Une chambre à soi, le résume très bien en 2016 dans l'émission La Grande Librairie.
Un destin féminin, enfin, d'être entravé par le quotidien, puisque apparemment c'est aux femmes de faire à manger, bon voilà, ça a toujours été comme ça. Et Virginia Woolf, ça elle fait pas par contre. Et elle sait que les Sœurs Brontë, par exemple, ce sont aussi... Elles ont toutes eu des problèmes économiques énormes, enfin c'est difficile à réaliser, la difficulté matérielle dans laquelle
vivaient ces femmes. C'est un livre sur l'argent.
C'est un livre sur l'argent, oui.
Comme on dit en mauvais français, c'est très cash sur l'argent.
Absolument.
C'est-à-dire qu'elle est un des rares écrivains à dire oui, mais on ne peut pas écrire si on est pauvre, si on est à la rue, si on n'a pas de quoi se nourrir.
Elle invente plusieurs personnages féminins comme ça qui essayent d'écrire mais qui doivent fabriquer des fleurs artificielles, être aide-soignante, avec tous ces métiers qui étaient les seuls disponibles pour les femmes à l'époque et qui sont épuisées le soir pour écrire. Et elle sait la chance qu'elle a d'être rentière. Elle parle pour les autres, justement.
Voilà, vous comprendrez peut-être un petit peu mieux ce premier choix de lecture qui met en avant la place qu'occupent les femmes dans le roman et de façon plus générale dans notre société. Un sujet donc toujours d'actualité, puisque la modernité du propos, sa clairvoyance et son ironie sont tellement profondes qu'il nous est difficile de croire que l'essai a été écrit il y a plus de 100 ans. Cet essai est basé sur plusieurs conférences animées par Virginia Woolf à l'université de Cambridge. Alors qu'on lui demande de penser les relations entre les femmes et les romans, Virginia Woolf impose une logique matérielle et concrète. Elle propose qu'on donne à la femme quelque argent et un lieu à soi si elle veut écrire une fiction. Voici ce qu'elle dit. Si Mrs. Seton, dis-je, alors, avait gagné de l'argent, quel souvenir auriez-vous de jeux et de disputes? Qu'auriez-vous su de l'Écosse et de la qualité de son air, de ses gâteaux et de tout ce qui s'ensuit? Inutile de poser ces questions puisqu'alors vous ne seriez jamais venu au monde. Ajoutons qu'il est inutile aussi de se demander ce qui serait arrivé si Mrs. Seton et sa mère et la mère de sa mère avaient amassé une grande fortune et l'avaient déposée sous les fondations des universités et des bibliothèques. Parce que, primo, il leur était impossible de gagner de l'argent et que, secondo, si cela leur avait été possible, la loi leur ôtait le droit de posséder ce qu'elles gagnaient. Ce n'est que depuis 48 ans que Mrs. Seton possède un sou qui soit à elle. Il y a 48 ans, cet argent aurait été la propriété de son mari, ce qui peut-être a joué son rôle dans le fait que Mrs. Seton, sa mère et ses aïeuls n'approchèrent pas de la bourse. Chaque sou que je gagnerais, pouvait-elle se dire, mon mari le prendrait et en disposerait selon sa sagesse, peut-être pour créer une chaire ou une bourse à Balliol ou à King's. De sorte que, gagner de l'argent, si c'était possible, ne m'intéresserait guère. Je fais mieux de laisser ce son à mon mari. De toute façon, et que la faute en fût ou non à la vieille dame qui regardait les pagnoles, il est certain que pour une raison ou une autre, nos mères ont mal géré leurs affaires. Pas un sou ne pouvait être épargné par elles en vue du superflu, des perdreaux et du vin, des appariteurs et de la pelouse, des livres et des cigares, des bibliothèques et du loisir. Élever des murs nus sur de la terre nue était le maximum qu'elles puissent faire. C'est ainsi que nous parlions debout auprès de la fenêtre, tout en plongeant nos regards, comme des milliers d'autres êtres le font chaque nuit, sur les dômes et les tours de la fameuse cité étalée sous nos yeux. Elle était pleine de beauté et de mystère en ce clair de lune d'automne. Ses vieilles pierres semblaient toutes blanches et vénérables. On pensait à tous les vieux livres qui y sont rassemblés, aux portraits de vieux prélats et d'hommes célèbres pendus dans ces salles lambrissées, à ces vitraux colorés qui projettent des sphères et des croissants étranges sur les trottoirs, à ces fontaines, à ces pelouses et à ces salles tranquilles. Et, pardonnez-moi cette pensée, je pensais aussi à ces admirables cigarettes, à ces admirables boissons, à ces profonds fauteuils et à ces agréables tapis, à l'urbanité, à la cordialité, à la dignité qui sont filles du luxe, de l'intimité et de l'espace. Certes, nos mères ne nous avaient pourvus de rien qui fût comparable à ces choses, nos mères qui trouvaient si difficile de réunir 30 000 livres, nos mères qui donnaient 13 enfants au ministre du culte de St. Andrews. Je m'en retournais à mon auberge, et tout en marchant le long des rues sombres, je réfléchissais à une chose et à une autre, comme on le fait d'habitude à la fin d'une journée de travail. Je me demandais pourquoi Mrs. Seton n'avait pas pu nous laisser d'argent et quel était l'effet produit sur l'esprit par la pauvreté. Et je pensais à ces étranges vieux messieurs, porteurs de touffes de fourrure sur leurs épaules que j'avais vus le matin, et je me souvins de la façon dont l'un d'eux se mettait à courir au premier coup de sifflet. Et je pensais à l'orgue qui faisait retentir la chapelle de ses accents et aux portes fermées de la bibliothèque. Et je pensais, qu'il est bien désagréable d'être enfermé au dehors. Puis, je pensais qu'il est pire peut-être d'être enfermé dedans. Vous venez d'écouter la bande-annonce du film Muet Loulou du réalisateur Pabst qui raconte l'histoire d'une jeune femme joueuse de revue qui ne vit que pour l'amour et le plaisir. Je voulais vous faire découvrir ce film qui est sorti la même année qu'Une chambre à soi car le personnage de Loulou est l'incarnation libertaire de l'amour et de la révolte contre la société. Figure féministe avant l'heure, héroïne d'un mélodrame, victime d'une société pourrie, Loulou est un grand succès cinématographique et met en lumière l'incroyable actrice Louise Brooks, inoubliable silhouette aux cheveux carrés noirs, qui laissa une trace indélébile dans l'histoire du cinéma. Mais revenons à Virginia Woolf. Après nous avoir promenés à Oxbridge, contraction d'Oxford et de Cambridge pour décrire une université d'élite imaginaire, et fait partager un dîner avec Mary Seton, personnage fictif pour mettre en avant l'inégalité du statut des hommes et des femmes, Virginia Woolf se rend à la bibliothèque du British Museum et se trouve stupéfaite devant le nombre d'ouvrages consacrés aux femmes écrits par des hommes. Savez-vous que vous êtes peut-être de tous les animaux de la création celui dont on discute le plus ? Tandis qu'elle cherche à intégrer la bibliothèque, elle est arrêtée par un homme qui lui interdit l'entrée seule. Elle ne peut rentrer qu'accompagnée d'un professeur, donc d'un homme. Exclue d'un lieu, d'un savoir, elle décide de se promener dans Londres et s'installe dans un café, se lance dans une diatribe puissante sur la société masculine. Les femmes ont pendant des siècles servi aux hommes de miroir. Elles possédaient le pouvoir magique et délicieux de réfléchir une image de l'homme deux fois plus grande que nature. Sans ce pouvoir, la Terre serait probablement encore marécage et jungle. Les gloires de nos guerres seraient inconnues. Nous en serions encore à graver sur des os de moutons de maladroites silhouettes de cerfs et à troquer des morceaux de silex contre des peaux de brebis ou contre quelque ornement simple qui satisferait notre goût encore vierge. Les surhommes et les doigts du destin n'auraient jamais porté de couronne, ou ne les auraient jamais perdus. Les miroirs peuvent avoir de multiples visages dans les sociétés civilisées. Ils sont en tout cas indispensables à qui veut agir avec violence ou héroïsme. C'est pourquoi Napoléon et Mussolini insistent tous deux avec tant de force sur l'infériorité des femmes. Car si elles n'étaient pas inférieures, elles cesseraient d'être des miroirs grossissants. Et voilà pourquoi les femmes sont souvent si nécessaires aux hommes. Et cela explique aussi pourquoi la critique féminine inquiète tant les hommes. Pourquoi il est impossible aux femmes de dire aux hommes que tel livre est mauvais, que tel tableau est faible, ou quoi que ce soit du même ordre, sans faire souffrir davantage et éveiller plus de colère que ne le ferait un homme dans le même cas. Si une femme, en effet, se met à dire la vérité, la forme dans le miroir se rétrécit, son aptitude à la vie s'en trouve diminuée. Comment l'homme continuerait-il de dicter des sentences, de civiliser des indigènes, de faire des lois, d'écrire des livres, de se parer, de pérorer dans les banquets, s'il ne pouvait se voir pendant ses deux repas principaux d'une taille pour le moins double de ce qu'elle est en vérité? Ainsi, pensais-je, émiettant mon pain, remuant mon café et de temps à autre regardant les gens dans la rue. L'apparition dans le miroir est de suprême importance, parce que c'est elle qui recharge la vitalité, stimule le système nerveux. Supprimez-la et l'homme peut mourir, comme l'intoxiqué privé de cocaïne. C'est sous le charme de cette illusion, pensais-je, regardant par la fenêtre, que la moitié des gens sur ce trottoir courent vers leur travail. Le matin, ils mettent chapeau et habits sous ces agréables rayons. ils savent que Miss Smith les attend pour le thé. Aussi commencent-ils leur journée confiants, réconfortés. Entrant dans la pièce, ils se disent « Je suis supérieur à la moitié des gens qui se trouvent ici ». Et c'est pour cela qu'ils parlent avec cette confiance en eux, cette assurance si lourde de répercussions sur la vie publique et qui aboutit à de si curieuses notes en marge de l'esprit individuel. Mais ces contributions à la dangereuse et séduisante question de la psychologie de l'autre sexe, j'espère que vous en poursuivrez l'enquête quand vous aurez 500 livres de rente bien à vous, furent interrompues par la nécessité de payer la note. Elle s'élevait à 5 shillings et 9 pence. Je donnai au garçon un billet de 10 shillings et il partit chercher de la monnaie. Il y avait un autre billet de 10 shillings dans ma bourse. Je le remarquai car le pouvoir qu'a ma bourse d'engendrer automatiquement des billets de 10 shillings est un fait qui me suffoque encore. J'ouvre ma bourse et les voici. La société me donne poulet et café, lit et couvert, en échange d'un certain nombre de morceaux de papier que me laissa ma tante pour la seule raison que je portais le même nom qu'elle. Elle termine son chapitre ainsi. J'avais été ridicule de demander à mon professeur de me donner dans sa thèse misogyne des preuves irréfutables de ceci ou de cela. Même s'il était possible de déterminer la valeur d'une capacité humaine à un moment précis, cette valeur serait sujette à variation. Dans un siècle, elle aura peut-être changé du tout au tout. Au surplus, pensais-je, parvenu devant ma maison, les femmes dans 100 ans auront cessé d'être un sexe protégé. Logiquement, elles participeront à toutes les activités, à tous les emplois qui leur étaient refusés autrefois. La bonne d'enfant portera le charbon, la vendeuse conduira une machine, toutes les hypothèses fondées sur des faits observés quand les femmes étaient un sexe protégé auront disparu. Par exemple, celle que femmes, prêtres et jardiniers vivent plus longtemps que les autres humains. Enlevez toute protection aux femmes, exposez-les aux mêmes efforts, aux mêmes activités que les hommes, faites-en des soldats, des marins et des mécaniciennes et des docteurs. Et les femmes ne mourront-elles pas si vite et si jeunes qu'on dira « j'ai vu une femme aujourd'hui », comme on disait autrefois « j'ai vu un avion ». Tout pourra arriver quand être une femme ne voudra plus dire « exercer une fonction protégée », pensais-je, ouvrant ma porte. Vous venez d'écouter à l'instant Hélène Collerette, Nadine Pierre et Catherine Courneau, qui interprètent le trio pour violon, violoncelle et piano composé par Germaine Taillefer, compositrice, éminente membre du groupe des Six aux côtés de Poulenc, Mio, Auric, Duré et Honegger. Germaine Taillefer, entrée au Conservatoire de Paris contre l'avis de son père, fut une figure familière mais oubliée de l'époque de l'entre-deux-guerres. J'ai choisi cette artiste car elle est citée dans une chambre à soi parmi les exemples de femmes méjugées du simple fait de leur sexe. Mais Virginia Woolf ne fait pas que mettre en lumière des femmes artistes oubliées. Elle en invente une pour démontrer la tragédie du génie limité et l'injustice liée à la condition féminine. Pour cela, elle imagine la vie de la sœur de Shakespeare, Judith, qui est son intelligence et sa facilité de manier les mots. Aurait-elle eu la même éducation, le même destin, la même reconnaissance ? Découvrons ensemble la description tragique de ce qu'est la vie d'une femme. Ce qui me semble vrai, quand je pense à l'histoire de la sœur de Shakespeare, telle que je vous l'ai contée, c'est que n'importe quelle femme née au XVIe siècle et magnifiquement douée serait devenue folle, se serait tuée ou aurait terminé ses jours dans quelque chaumière éloignée de tout village, mi-sorcière, mi-magicienne, objet de crainte et de dérision. car point n'est besoin d'être grand psychologue pour se convaincre qu'une fille de génie, qui aurait tenté de se servir de son don poétique, aurait été à tel point contrecarrée par les autres, torturée et tiraillée en tous sens par ses propres instincts, qu'elle aurait perdu santé et raison. Aucune fille n'aurait pu se rendre à pied à Londres, se tenir à l'entrée des artistes et forcer son chemin jusqu'auprès des acteurs-directeurs sans se faire violence et sans être suppliciée par une souffrance illogique peut-être, car il se peut que la chasteté ne soit qu'un tabou inventé par certaines sociétés pour des causes inconnues, mais qui n'en était pas moins inévitable. La chasteté avait alors, elle a même encore maintenant, une importance religieuse dans la vie d'une femme. Et elle s'est à ce point enveloppée de nerfs et d'instincts que pour la détacher et l'amener à la lumière du jour, il faudrait un courage des plus rares. Une vie libre, à Londres, au XVIe siècle, aurait impliqué pour une femme poète et auteur dramatique une tension nerveuse et un déchirement tel qu'il l'aurait sans doute tuée. Eût-elle survécu, tout ce qu'elle eût écrit découlant d'une imagination faussée et morbide en eût été déformé et contrefait. Et sans doute, pensais-je, regardant le rayon où ne se trouve point de pièces écrites par des femmes, n'aurait-elle pas signé ses œuvres ? Ce refuge de l'anonymat, elle l'aurait certainement recherché. C'est un reliquat du sens de la chasteté qui incita jusqu'au XIXe siècle les femmes à garder l'anonymat. Corbel, George Eliot, George Sand, toutes victimes du conflit intérieur, comme en témoignent leurs écrits, cherchèrent en vain à se voiler en se servant d'un nom d'homme. Elle rendait ainsi hommage à cette convention qui, si elle n'a pas été créée par l'autre sexe, a du moins été si fortement encouragée par lui. La plus grande gloire pour une femme est qu'on ne parle pas d'elle, disait Périclès, qui était, lui, un des hommes dont on parla le plus, que toute publicité les concernant est détestable. L'anonymat court dans leurs veines, le désir d'être voilé les possède encore. Même aujourd'hui, elles sont loin d'être aussi préoccupées que les hommes par le soin de leur gloire et, en général, peuvent passer devant une pierre tombale ou un poteau indicateur sans éprouver l'irrésistible désir d'y graver leur nom, ce à quoi Alf, Bert ou Chaz sont contraints, poussés par cet instinct qui les fait grogner dès qu'ils voient passer une belle femme ou même un chien. Ce chien est à moi. Virginia Woolf était fascinée par la relation qu'entretient la musique, les mots et le schéma narratif. Grande admiratrice de l'œuvre de Mozart, vous venez d'écouter une interprétation de la Marche turque, pour les moins surprenantes, par la génialissime pianiste Yuja Wang lors d'un concert à Berlin en 2016. Pour Virginia Woolf, les femmes doivent s'engager à écrire dans la réflexion esthétique véritable qui seule fera d'elles des autrices sans jamais renoncer à être elles-mêmes. Mais surtout, Virginia Woolf explique que les femmes doivent résister à tous les conseils, surtout les conseils de bienséance que les hommes se sont toujours autorisés à donner aux femmes. Elle insiste donc, il faut écrire comme on le sent, comme on est, c'est-à-dire comme femme indépendante de l'homme. Écoutez donc. Toute cette opposition de sexe à sexe, de qualité à qualité, toute cette revendication de supériorité et cette imputation d'infériorité appartiennent à la phase des écoles primaires de l'existence humaine, phase où il y a des camps et où il est nécessaire pour un camp de battre l'autre et de la plus haute importance de monter sur l'estrade et de recevoir des mains du directeur lui-même une coupe hautement artistique. À mesure que les gens avancent vers la maturité, ils cessent de croire au camp et au directeur d'école ou aux coupes hautement artistiques. De toute manière, quand il s'agit de livres, il est notoirement difficile d'étiqueter de façon durable leur mérite. Les comptes rendus de littérature contemporaine ne sont-ils pas une perpétuelle illustration de la difficulté de juger ce grand livre, ce livre dépourvu de toute valeur? C'est un même livre qui est ainsi qualifié. Ni louange ni blâme ne signifie rien. Non, quelque délicieux que puisse être le divertissement de faire des évaluations, c'est la plus vaine de toutes les occupations, et se soumettre aux décisions des distributeurs de bons et de mauvais points, la plus servile des attitudes. Écrivez ce que vous désirez écrire. C'est tout ce qui importe, et nul ne peut prévoir si cela importera pendant des siècles ou pendant des jours. Mais sacrifiez un cheveu de la tête de votre vision, une nuance de sa couleur, par déférence envers quelques maîtres d'école tenant une coupe d'argent à la main ou envers quelques professeurs armés d'un maître, c'est commettre la plus abjecte des trahisons. Et la perte de tous les biens et celle de la chasteté, perte dont on disait jadis qu'elles étaient les plus grands désastres connus des humains, ne sont que simples piqûres de puces en comparaison. Avant de terminer cette émission, je tiens à vous lire les dernières pages d'une chambre à soi, véritable cri du cœur, véritable combat à mener ensemble. Car voici ma conviction. Si nous vivons encore un siècle environ, je parle ici de la vie qui est réelle et non pas de ces petites vies séparées que nous vivons en tant qu'individus, et que nous ayons toutes 500 livres de rente, et des chambres qui soient à nous seules. Si nous acquérons l'habitude de la liberté et le courage d'écrire exactement ce que nous pensons, si nous parvenons à échapper un peu au salon commun et à voir les humains non pas seulement dans leur rapport les uns avec les autres, mais dans leur relation avec la réalité, et aussi le ciel et les arbres, et le reste en fonction de ce qu'ils sont. Si nous parvenons à regarder plus loin que le croque-mitaine de Milton, car aucun être humain, si nous ne reculons pas devant le fait, car c'est bien là un fait, qu'il n'y a aucun bras auquel nous accrocher et que nous marchons seuls et que nous sommes en relation avec le monde de la réalité et non seulement avec le monde des hommes et des femmes, alors l'occasion se présentera pour la poétesse morte, qui était la sœur de Shakespeare, de prendre cette forme humaine à laquelle il lui a si souvent fallu renoncer. Tirant sa vie de la vie des inconnus qui furent ses devancières, ainsi qu'avant elle le fit son frère, elle naîtra enfin. Mais il ne faut pas, car cela ne saurait être, nous attendre à sa venue sans effort, sans préparation de notre part, sans que nous soyons résolus à lui offrir, à sa nouvelle naissance, la possibilité de vivre et d'écrire. Mais je vous assure qu'elle viendrait, si nous travaillons pour elle, et que travailler ainsi, même dans la pauvreté et dans l'obscurité, est chose qui vaut la peine. Chaque extrait musical que vous avez entendu pendant les lectures sont tirés en fait du film The Hours, un film réalisé par Stephen Daldry. La musique est composée par Philip Glass. Ce film met en scène trois portraits de femmes, Virginia Woolf qui est en train d'écrire Mrs. Dalloway, Laura qui lit cet ouvrage et Clarissa, une version moderne en fait du personnage. J'espère vous avoir démontré que la chambre à soi que réclamait Virginia Woolf avec tant d'ardeur au nom de ses sœurs et de l'art est une métaphore existentielle d'une vie à soi, que l'on dirige pleinement avec combat, combat sensible au monde face à l'abstraction des idées, combat face au pouvoir masculin institué. Et surtout qu'il ne faut pas considérer la littérature féminine comme isolée dans un sous-chapitre de l'histoire de la littérature, mais comme une partie intégrante de la société dont elle est l'émanation, appréciée dans sa diversité culturelle et sa complexité artistique. Alors pour inciter la lecture d'autrices d'époque, de pays, de cultures différentes, pour favoriser les modèles féminins de création, pour médiatiser des idées novatrices sur le matrimoine littéraire, mais aussi pour diffuser une parole rendue muette, je vous propose de nous retrouver tous les mois autour d'une œuvre écrite par une ou des femmes. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas d'aller voir vos libraires et bibliothécaires préférés, toujours de bons conseils féminins et féministes. À bientôt.